Lorsque j'avais 14 ans, j'ai lu un livre d'un juif américain sur le Messie. Et là, il a parlé de plus de 300 prophéties du Messie. Mais il n'a pas tout traité. Je n'avais pas trouvé d'autres livres qui traitaient tout. Alors, j'ai commencé à relire tout l'Ancien Testament. Et chaque fois où j'ai trouvé une prophétie, j'ai mis ça dans ma liste. J'ai commencé par 1, 2, 3, 4. J'ai fini par 299, 300, 301, 302. Il y a 16 ans. Et je peux vous dire, je n'ai plus jamais eu des doutes. J'ai jamais eu des doutes de ma foi. N'est-ce pas de voir comme la prophétie s'est accomplie en Jésus-Christ. C'était une chose qui m'a beaucoup formé. Alors, nous lisons la suite dans Daniel 9. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. N'est-ce pas? Après cet édit du roi Perse, Israël était tout le temps dans des troubles, voire les constantes menaces militaires subies pendant la reconstruction, comme c'est décrit en Néhémie 2 et chapitre suivant. Et voilà, il s'agit là de ces sept premières semaines d'année. Donc on a rebâti Jérusalem pendant cette période de 49 ans. Et après, les 62 semaines d'année. Vous comprenez pourquoi il est dit pas 69, mais 7 et 62 semaines d'année. Et voilà la suite en Daniel 9, 26. Et après les 62 semaines d'année. Donc il y avait d'abord les 7, les 62. Et le texte dit maintenant, et après les 62 semaines d'année, le Messie sera retranché et n'aura rien. Donc exactement, à la fin de ces 69 semaines d'année, le Messie est venu comme prince. Et 5 jours après, la masse a crié devant Pilate, crucifie-le. Il a été retranché. Et les Romains l'ont crucifié sur le rocher de Golgotha. D'ailleurs, la crucifixion n'est pas seulement décrite dans le Nouveau Testament, mais on a aussi des témoignages extra-bibliques de Joseph Flave, un juif. Donc un juif qui ne croyait pas en Jésus comme Messie. Un juif du 1er siècle qui parle de la crucifixion de Jésus-Christ. Et Tacite, un historien romain, dans ses écrits, parle également de la crucifixion de Christ sous l'empereur Tibère. Et voilà, nous voyons la suite de Daniel 9. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Il n'est pas dit combien de temps après, mais il est clair. Le Messie vient comme prince, ensuite il est retranché, et ensuite il y a un peuple qui vient et va détruire la ville de Jérusalem et le lieu saint, donc le deuxième temple. Et nous le savons par l'histoire. À l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains sont venus et ils ont détruit Jérusalem complètement et le temple à Jérusalem. Plus d'un million de Juifs est mort dans cette guerre affreuse. Et voilà les conséquences du rejet de Jésus, le Messie, était déjà annoncé par Moïse. En Lévitique 26, 31, Dieu dit « Et je réduirai vos villes en désert et je désolerai votre sanctuaire. Et je ne flairerai plus l'odeur agréable de vos parfums. » L'historien romain Cassius Dio écrit que les Romains ont détruit environ 1000 villes et forteresses en Israël dans leurs deux guerres autour de 70 et 135 après Jésus-Christ. Voilà, Moïse l'avait prédit. « Et je réduirai vos villes en désert. Et je désolerai le pays. » Et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés. Voilà, le pays qui ruisselait de lait et de miel est devenu, dans un processus de plusieurs centaines d'années, un désert. Point culminant, au 19e siècle, Mark Twain, vous connaissez, n'est-ce pas, cet auteur connu, Mark Twain a écrit dans son livre « Innocents Abroad » après qu'il avait visité la Palestine en 1867. Le pays est très peu peuplé. C'est un pays qui ne connaît rien qui soit agréable aux yeux. C'est un pays sans perspective, un pays détruit sans espérance. La Palestine au 19e siècle. Et voilà, Moïse a écrit en Deutéronome 28, 64, « Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. » Et c'est un fait historique que les Juifs, depuis l'an 70 après Jésus-Christ, ont été dispersés dans un processus de plusieurs centaines d'années, littéralement parmi tous les cinq continents du monde. Et en Lévitique 26, 33, nous lisons, « Et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. » Depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu environ 13 millions de morts parmi le peuple juif à cause de la haine contre ce peuple. N'est-ce pas? À travers tous les siècles, ils étaient persécutés, partout. Et voilà, le peuple juif a connu une longue période sans état. Mais déjà le prophète Osée, au 8e siècle avant Jésus-Christ, a écrit, chapitre 3, verset 4, « Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince, et sans sacrifice. » Eh bien, ils n'ont plus eu un état depuis l'an 70, ou depuis la guerre vraiment finale, 135 après Jésus-Christ, jusqu'à 1948. Donc, pendant beaucoup de jours, le texte biblique ne dit pas pour l'éternité, seulement pour une longue période sans état. Et aussi sans sacrifice. Pourquoi? Parce qu'à l'an 70, les Juifs ont perdu le mont du Temple. Alors, ils n'ont plus pu faire des sacrifices, parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, le judaïsme n'a plus jamais eu ses sacrifices. Donc, le peuple juif était caractérisé par l'absence de sacrifices. Alors, on peut se demander, est-ce que Dieu a rejeté cette nation? Lisez l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament, écrit à l'an 57 après Jésus-Christ. Paul dit, Romains 11, verset 1er, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qu'ainsi n'advienne. » Impossible. « Car moi aussi, je suis Israélite, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Et Paul explique dans les chapitres 9 à 11 que le peuple juif comme peuple a été mis depuis le rejet du Messie sur le banc d'attente pour reprendre sa place plus tard, dans les derniers temps. Mais nous avons considéré que Jésus-Christ est mort. Mais pourquoi il est mort, le Messie? Pourquoi il était retranché? Eh bien, déjà le prophète Ésaïe, vers 700 avant Jésus-Christ, avait expliqué la signification de la mort du Messie. Et il a expliqué que le Messie devait mourir comme un sacrifice. Mais vous voyez, les sacrifices d'animaux, ils étaient seulement des symboles. Ils ne pouvaient pas vraiment ôter le péché. Mais ces symboles devaient donc rendre vivant cette vérité qu'un jour le Sauveur va venir. Et il va mourir pour nous comme sacrifice, le juste pour nous, les injustes, pour nous amener à Dieu. Alors, les grands rabbins du passé, ils ont expliqué, Ésaïe 53 parle du Messie. Je lis maintenant Ésaïe 53, verset 10. « Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. Il a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Il prolongera ses jours. » Et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Voyez, il va mourir comme un sacrifice de péché. Et après, il va prolonger ses jours. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va vivre. Après, il va être ressuscité. C'était déjà annoncé par le prophète. Ésaïe 53, 11. Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs. et lui, il portera leurs iniquités. D'ailleurs, pas il enseignera la justice à tous, à plusieurs. Parce que seulement ceux qui vont confesser leurs péchés au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu de la Bible, et vont accepter le sacrifice du Messie pour soi personnellement, vont recevoir le pardon et la justice de Dieu. N'est-ce pas? Il y a toujours eu des gens qui ont dit, oui, mais la prophétie biblique, ça a été écrit après les événements. Donc Ésaïe 53 devrait être écrit après la crucifixion, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, depuis les découvertes de Qumran, où on a trouvé pratiquement tous les livres de l'Ancien Testament, et pour une très grande partie de l'époque avant l'ère chrétienne, on a maintenant un rouleau complet d'Ésaïe qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et je peux vous dire, je l'ai lu dedans, il y a tout le chapitre 53. Donc c'est de la prophétie authentique. Et il contient le texte intégral d'Ésaïe 53. Si quelqu'un dit, les Juifs ont changé l'Ancien Testament, alors je dis, mais quand? On a des manuscrits à travers les millénaires et on peut montrer, l'Ancien Testament n'a jamais été changé. Comme on peut aussi montrer par les manuscrits du Nouveau Testament. Jamais. Et voilà, Jésus-Christ est mort, mais le troisième jour, il a été ressuscité. Et plus de 500 personnes l'ont vu. Ils ont parlé avec lui, ils ont mangé avec lui. Donc, il a été ressuscité. Et finalement, il est allé avec ses disciples, les apôtres, sur le mont des Oliviers, qui se trouve à l'est de la vieille ville de Jérusalem. Et sur cette montagne, il a donné le mandat pour la mission mondiale. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. » Donc Jésus-Christ, le Messie, a donné le mandat pour ses disciples, pour ceux qui le suivent, d'apporter ce message de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ jusqu'au bout de la terre. De ne pas suivre ce commandement, c'est de se révolter contre Dieu. Vous voyez? Voilà, ce tableau-là nous aide à mieux comprendre la prophétie biblique. Vous voyez, une première fois, Jésus-Christ est venu comme sauveur qui est mort pour nos péchés à la croix. Et il est ressuscité et il est retourné à la gloire céleste. Il a dit qu'il va revenir un jour, une deuxième fois, plus comme le sauveur du monde, mais comme le juge du monde, dans les derniers jours. Alors, quelle est la signification de cette époque entre les deux venues du Messie? Eh bien, en Ésaïe 49, verset 6, nous lisons, « Dieu parle au Messie, et il me dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur pour établir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » Donc c'est déjà annoncé, le Messie devrait être, ce message a été apporté à toutes les nations du monde. Et des millions de non-juifs ont reconnu Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Ils ont obtenu la paix avec eux. Vous voyez, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est parvenue en Europe dès le 1er siècle. Et très tôt à Lyon, n'est-ce pas? Il y avait Irénée ici à Lyon comme un témoin important du message du salut. La bonne nouvelle est parvenue en Afrique déjà dès le 1er siècle après Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, sur cassette ou sur CD, on peut obtenir dans plus de 5700 langues et dialectes. La Bible est traduite en 2300 langues différentes. C'est le livre qui est traduit dans le plus de langues. Et voilà, le message est venu jusqu'en Chine. Là, il y a aujourd'hui à peu près 80 millions de vrais croyants en Jésus-Christ qui sont d'ailleurs persécutés par le régime communiste. Et quand on est persécuté et on reste toujours fidèle, c'est une preuve que ce n'est pas une foi extérieure, n'est-ce pas, comme il y a des millions en Europe qui disent « je suis un chrétien », Mais c'est seulement extérieur. Mais ce sont des vrais chrétiens. Dans le monde entier, des millions ont vraiment reçu Jésus-Christ comme le sauveur envoyé par Dieu. Voilà. Donc, parmi toutes les nations du monde, il y a des vrais croyants en Jésus-Christ. Et le message est vraiment venu jusqu'au bout de la terre. La Bible est aussi traduite dans des langues des Esquimaux. Et voilà, même là, il y a des vrais croyants en Jésus-Christ. Et pendant cette période où ce message du Messie a été annoncé dans le monde entier, les Juifs étaient dispersés dans le monde entier. Ce qui les a unis dans leur cœur, c'était le désir de 2000 ans, le désir de retourner à Sion un jour. Voyez par exemple, le psaume 137 est un psaume qui était toujours important en rapport avec des prières journalières dans le judaïsme, les 2000 ans passés. Et là on lit, « Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie. » Donc que la main droite ne marche plus, ça veut dire, « Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. » Vous voyez l'importance de Jérusalem pour le peuple juif? Beaucoup plus de 1000 fois, la Bible parle de Jérusalem, de Sion. D'ailleurs, dans le Coran, il n'y a pas une seule fois le mot de Jérusalem. Ou le terme arabe, Al-Quds, pas une seule fois. Tiens, c'est intéressant. Mais voyez, ça veut dire beaucoup. Si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies, et quand on fête les noces, c'est dangereux, n'est-ce pas? C'est un jour plein de joie. Alors dans le judaïsme, on prend un verre pendant les noces et on jette par terre pour avoir un mémorial de Jérusalem qui a été détruit à l'an 70. Pour jamais oublier donc la tragédie de Jérusalem. Quand on a une joie si belle pendant les noces.